18-20.
Le 18-20 ce soir sur la situation politique à droite. Conférence de presse de François Fillon cet après-midi. Il maintient sa candidature à la présidentielle. Il a par ailleurs présenté des excuses pour avoir employé son épouse. Selon lui, une pratique parfaitement légale dont il a reconnu qu'elle soulevait aujourd'hui un problème moral. Pour le reste, les médias et des forces politiques occultes, obscures, ont été accusés de vouloir voler l'élection. Je résume là cette conférence de presse. On va y revenir en détail. J'attends vos questions, réactions, analyses. Pensez-vous que la défense de François Fillon lui permettra de relancer sa campagne et de régler le problème politique dans lequel il se trouve depuis 15 jours? On ouvre le débat jusqu'à 20h. Vous êtes déjà extraordinairement nombreux au Standard d'Inter.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et vous pouvez nous joindre via Twitter avec le mot-clé Telson, via le courrier électronique franceinter.fr et donc au Standard 01 45 24 7000. Bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Je voulais simplement vous dire que le problème pour l'affaire Fillon, c'est la différence entre le moral et le légal. En fait, il dit c'est légal. Bon, peut-être que c'est légal. C'est légal. Bon, pourquoi pas. Mais le problème, c'est le moral. Le moral, c'est que pour un politicien, normalement, la morale, ça serait le bien public, l'intérêt général, la justice, l'égalité, la solidarité, etc. Enfin, toutes les valeurs républicaines. Bon, le légal, il a du retard sur le moral. Pourquoi ? Ben parce que ce sont les parlementaires qui l'élaborent, qui en profitent. Tous les arguments rhétoriques, on appelle ça de la com, excusez-moi, mais enfin les éléments de langage, tous les arguments qu'il a développés cet après-midi ne feront pas accepter aux Français le fait qu'un élu se serve avant de servir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quelque chose de moral. Mmh. Et le légal, il est très en retard parce que ce sont les parlementaires qui le font.
Merci Chantal, vous nous appeliez des Hautes-Marne. Pour vous répondre ici en studio à France Inter, Guillaume Tabar, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef, éditorialiste politique au Figaro. Françoise Fressoz, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique également au Monde. Brice Teinturier, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Morale légale, qui veut répondre, Guillaume Tabar? On est au cœur là de l'enjeu. Hein.
Oui, alors, comme le projecteur est braqué sur des faits qui concernent François Fillon, mais qui concerne aussi une grande partie des responsables politiques, bien sûr que le sentiment d'amoralité peut être choquant, mais quelque part, tout niveau de rémunération d'autres catégories professionnelles, même dans le cadre d'emplois tout à fait réguliers, incontestables, pourrait aussi choquer. Vous voyez, il y a un coup de projecteur qui fait apparaître une rémunération choquante en soi, mais dans la mesure où elle est déconnectée quand même de l'ensemble du reste de la polémique.
Françoise Fressoz.
Alors,
Chantal nous disait être sidéré par les excuses.
Non, mais François Fillon, il était là pour organiser sa défense. Donc, sa défense, il va pas dire, je regrette, c'était illégal, je vais être mis en examen et j'abandonne tout. Il était là pour dire le contraire, pour dire je remonte sur mon cheval. Donc, quelle est sa défense? Il dit c'est légal. Et de fait, les parlementaires ont une enveloppe de 9000 euros pour embaucher jusqu'à 5 assistants parlementaires. Après, la difficulté pour lui, c'était de justifier les activités de sa femme. Il s'est justifié en disant, ben voilà, j'avais choisi la proximité, et elle s'occupait de ma circonscription, elle se mettait pas en avant, voilà. Donc, il est resté vraiment sur le légal. Après, il l'a joué sur l'explication face aux Français en disant, je comprends que ça puisse choquer. Mais comme c'est pas illégal, je vais pas rembourser. En fait, c'était ça. Donc, je comprends qu'il y ait une gêne. Et en même temps, je vois pas ce qu'il aurait pu faire comme haute défense à partir du moment où il organise cette conférence de presse pour essayer de relancer sa campagne.
Est-ce que c'est une défense efficace d'après vous, Françoise Fressoz? Vous ne voyez pas quelle autre défense il aurait pu faire, mais est-ce efficace?
Alors, je pense que ça lui a sauvé sa semaine parce que si vous voyez le scénario qui se dessinait, c'était qu'il était mis en minorité et que demain, devant les parlementaires, il passait un si mauvais quart d'heure qu'il n'était plus le candidat de la primaire à droite. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « je reconnais ma faute sans aller jusqu'à rembourser ». Donc ça, c'est effectivement un problème. « Je reconnais ma faute, mais je continue et de fait, il n'y aura plus de fronde, en tout cas pour la semaine qui vient ». Donc, c'est une opération politique, à court terme en tout cas, qui réussit.
Brice Teinturier, avant de retourner au Standard.
Depuis le début, il y a effectivement cette distinction entre le légal et, moi j'ai envie de dire, la décence. Et même si les faits sont légaux, ça c'est à la justice de le dire, la difficulté dans l'opinion pour François Fillon, c'est effectivement l'indécence perçue des sommes et des pratiques à travers sa femme et ses enfants. Ce qui est nouveau aujourd'hui, parce que ça c'est depuis le début cette distinction, ce qui est nouveau, c'est qu'il est même allé plus loin, il s'est excusé. et je pense qu'il a eu raison en termes d'opinion de le faire. Il s'est excusé sur quoi ? Il n'a absolument pas considéré qu'il avait failli. Il s'est excusé d'avoir une pratique qui, pour lui, relevait de la confiance avec ses proches et qui suscite de la défiance. Mais malgré tout, ce sont des termes nouveaux et qu'il n'avait pas utilisés. Et puis il a également dit que finalement, le seul tribunal qui le reconnaissait, c'était celui des Français, donc l'élection présidentielle. Et tout ça, mis bout à bout, ça ne supprime pas la question soulevée par votre auditrice sur la question de la décence, la question de l'éthique, mais ça modifie quand même la façon qu'il a d'aborder, et substantiellement, cette affaire. Et je pense que ça lui redonne effectivement une bouffée d'oxygène pour tenir en termes de candidature, et c'est ça l'essentiel pour lui dans les semaines à venir.
Ça purge le problème, Guillaume Tabar, ou c'est juste une bouffée d'oxygène pour passer la semaine ?
Et tout d'abord, je crois qu'en termes de communication, il a réussi aujourd'hui ce qu'il avait raté depuis le début. À savoir, il y avait une absence totale de contrition. Là, il va jusqu'à formuler des excuses. Au début, sa défense était pour le moins imprécise. Là, il joue l'opération transparence en mettant tous ses revenus en ligne. Et c'est vrai, comme l'a dit Françoise à l'instant, il clôt, en tout cas dans les médias, la fronde politique contre lui au sein des Républicains. Il la clôt non pas tant d'ailleurs en ayant convaincu les siens, mais en leur rappelant qu'ils n'ont aucun pouvoir sur lui. Je crois qu'il y a quand même deux choses qui me paraissent importantes dans sa réponse politique. La première, c'est « je ne suis pas le candidat d'un parti, je n'ai pas été désigné par une instance, mais j'ai été élu par des électeurs. Et donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai ma légitimité qui vient des électeurs et c'est eux seuls qui décideront. » Et puis deux, il a bien vu qu'il n'y avait pas de plan B, que tous les scénarios envisagés, soit Alain Juppé qui avait clairement dit non, et non à plusieurs reprises, soit le scénario d'un jeune, enfin un jeune, d'un quinquagénaire, aucun ne pouvait créer le consensus. Donc il a vu qu'il n'y avait pas d'alternative, il s'appuyait là-dessus, et fort de sa légitimité dans les urnes, il a décidé de passer en force, et sur le plan politique, en tout cas, ça marche.
Jacques, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Eh bien, de Toulouse. Je comprends pas l'arrogance de nos chers élus députés et sénateurs qui confondent la loi et l'éthique. Et en matière de réponse, il y aurait sûrement une réponse bien plus claire. Il faudrait demander à l'ancien député européen Gérard Onesta comment il a fait au Parlement européen pour que l'éthique rentre dans une loi du Parlement européen. Il semblerait que les parlements français aient très peu d'éthique et ne sachent pas copier les lois européennes.
Mmh. Vous êtes en colère, Jacques, ce soir ?
Tout à fait. Mais bon, attention, de la magouille républicaine et de la magouille jacobine, elle est tellement loin de Toulouse qu'on ne la voit pas, mais elle est de toutes les couleurs politiques.
Merci Jacques pour cette intervention. Françoise Fressoz.
Non, là où vous avez tout à fait raison, c'est que la vie parlementaire et le statut des députés, c'est quand même très opaque et que à chaque fois qu'il y a eu une tentative de transparence, ça s'est fait sous la pression des affaires. Il y a aujourd'hui un déontologue à l'Assemblée nationale, mais il a été créé pourquoi ? Eh bien parce que il y a eu des collusions entre les affaires et à chaque fois, vous avez alors, il faut pas non plus complètement caricaturer, c'est-à-dire que en quelques années, ils ont quand même assez aligné leur statut d'impôt sur le revenu, leur statut de retraite. Par exemple, quand ils ont voulu réformer les retraites des Français, ils se sont dit, on va peut-être quand même commencer par le faire le ménage chez nous. Donc, si vous prenez les 15 ou 20 dernières années, il y a quand même eu pas mal de réformes qui ont été faites pour mettre un peu une dérogation à ce droit commun. Et je pense que l'affaire Fillon va encore une fois faire avancer les choses, c'est que je pense qu'effectivement, cette espèce de statut de 1975 qui permet aux députés ou aux sénateurs d'aller choisir ses assistants et faire ce qu'il veut de cette somme d'argent, ça sera peut-être un peu plus compliqué à l'avenir. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'il faut à chaque fois qu'il y ait des affaires pour qu'on arrive vers un régime un peu plus normal.
Quelqu'un veut dire un mot, Guillaume Tabar ?
Oui, on a tous la tentation de dire qu'il faut que la loi impose l'éthique, mais qu'est-ce que l'éthique ? Récemment, justement, à propos de toutes ces de ce débat, je discutais avec un journaliste italien présent en France, et qui disait que dans la loi italienne, il était interdit de travailler en famille jusqu'à un cinquième degré de proximité. Donc on voit bien la logique, dire « Ah, quelqu'un qui travaille avec son conjoint, c'est scandaleux, donc on va interdire le conjoint. » Et puis après, on ne travaille plus avec le conjoint, un député va travailler avec le beau-frère. Ah ben donc on va interdire le deuxième degré. Et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'on peut toujours mettre des règles à l'infini. C'est pas ça en soi. Je pense que la question d'éthique, c'est avant tout une question de comportement personnel, c'est jamais une loi qui pourra l'imposer. Et ensuite, est-ce que, ça c'est une question de fond, est-ce que travailler avec son conjoint, est-ce forcément amoral ? Pas forcément, c'est vrai qu'il y a plein de professions où on travaille en couple, par choix.
Mais là, la question est de savoir s'il y avait travail, c'est pas de travailler avec un conjoint. Effectivement, il y a plein de professions où on travaille avec son conjoint, mais le point commun, c'est de travailler et non pas de ne pas travailler, si c'est le cas. Brice Ceinturier ?
Moi, je crois que la question de l'éthique, elle est très simple, en réalité, et que justement, ce que ce type d'affaires révèle, c'est que il n'y a plus de mécanismes qui font que spontanément, on se dit immédiatement, simplement et très exactement, ce qui relève de la décence et de la vertu et ce qui ne le serait pas. Donc il faut des lois, bien entendu, mais ce qui est assez dramatique, c'est qu'on en soit à se poser ce type de questions. Et ce que les Français, je crois, ne supportent pas, c'est effectivement cela. Je ne suis pas sûr que ce soit une question du troisième ou du quatrième degré
de
parenté. C'est que il y a une sorte d'évidence, voilà. Il y a une sorte d'évidence que de telles pratiques pour les Français ne devraient pas se faire. Et si elles ne sont pas reconnues, et l'erreur de François Fillon, à mon avis, c'est de ne pas l'avoir senti et immédiatement reconnu et dit, ce qu'il modifie aujourd'hui. Mais si elles ne sont pas reconnues, ça exaspère encore plus la population.
Bah, quand je vois le nombre d'appels et la tonalité des appels au standard de France Inter ce soir, le problème n'est pas purgé dans l'opinion, en tout cas. Même si le standard n'a pas vocation à être une mesure scientifique.
Oui, mais là, je voudrais juste rajouter quelque chose. L'enjeu pour François Fillon, c'est l'électorat LR-UDI. Et cet électorat-là, il tient sur le plan des intentions de vote de l'électorat parce que tout simplement, il ne veut pas se faire voler sa victoire. La victoire qu'il attend depuis maintenant 5 ans, il considère qu'il n'y a pas de plan B en réalité. Du coup, bien sûr, François Fillon a baissé dans les intentions de vote, mais c'est surtout son image qui s'est dégradée et le socle électoral tient. Et l'objectif pour François Fillon, c'était de redonner à cet électorat la possibilité à nouveau de se dire « on a raison ». De voter pour François Fillon et puis d'alimenter aussi l'idée qu'il y a un acharnement
Françoise et Guillaume Tabar.
Non, moi je pense que ça choque les auditeurs parce qu'il y a aussi, je pense, une perte d'influence du parlementaire, une perte d'influence de la vie représentative. Donc du coup, il faut qu'ils adaptent leur statut. Je veux dire, c'est plus des dieux les parlementaires. Ils sont plus perçus comme des gens qui sont capables de faire la bonne loi. Donc il faut qu'ils adaptent aussi leurs pratiques. Et je pense que là, il y a une vigilance républicaine très importante, mais c'est d'ailleurs Fillon l'a d'ailleurs senti, parce que pour contre-attaquer, il a dit « moi je vais réduire le nombre des parlementaires, donc je comprends que ces pratiques choquent ». Donc il l'a bien compris que le message de l'opinion c'était « on ne peut pas continuer comme ça ».
Guillaume Tabar et puis le standard.
Oui, il y a sur la question éthique sur le plan de ce comportement et la question politique que Brice Ceinturier soulignait. Et c'est vrai que François Fillon, en soulignant, en rappelant que en l'absence d'un candidat de droite au second tour, eh bien on aurait un second tour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, l'électeur de droite, ben c'est une affiche qu'il redoute. Donc, il peut au moins parvenir à les remobiliser en disant, ben voilà, on ne peut pas laisser une finale se dérouler dans ces conditions-là.
Anne, bonsoir, vous nous appelez de Paris, bienvenue.
Bonsoir. Ce qui me choque, c'est que le programme du candidat François Fillon est un programme d'austérité, de rigueur, qui va surtout peser sur les classes pauvres, populaires et moyennes. Et si on le met en regard de sa pratique et des salaires versés pour un poste d'assistant, c'est totalement invraisemblable. Et si la justification est que la personne a des diplômes en lettres et en droit, je pense que tous les milliers de personnes qui sont secrétaires, assistantes, les milliers de personnes qui ont des diplômes et de forts diplômes et plusieurs diplômes et qui ne trouvent pas de travail ou des tout petits boulots, des tout petits jobs ne peuvent être que choqués et je trouve que ces arguments me mettent en colère et ne me rassurent pas du tout. Et je trouve que politiquement c'est indéfendable le programme qu'il propose après quand on sait ce que lui-même a appliqué pour sa famille.
Merci.
Peu importe que ce soit sa famille d'ailleurs.
Merci Anne. Brice Ceinturier.
Ah, c'est une autre dimension que vous soulignez que je crois très importante. C'est que indépendamment de la capacité qu'a François Fillon, peut-être, je le crois en tous les cas après cette conférence de presse, à maintenir sa candidature, se pose la question de son autorité pour pouvoir porter des réformes, qui sont des réformes où il demande des efforts aux Français. Et là, vous mettez le doigt sur, à mon avis, quelque chose qui n'est absolument pas purgé et qui va continuer, y compris d'ailleurs s'il était élu président de la République. C'est comment peut-on demander des efforts aux Français quand on a été dans une telle affaire, entre guillemets. Et ça, c'est une question qui n'est pas purgée et qui ne le sera pas, je crois, parce qu'elle relève du projet politique lui-même.
Henri Guénaud, hier sur France Inter, disait que le problème de François Fillon n'est pas légal, n'est pas moral, il est politique aujourd'hui. Et que ça, politiquement, l'équation devient impossible pour lui. Guillaume Tabar, qu'en pensez-vous ?
Écoutez, oui, alors je pense que cette question de la crédibilité d'un acteur politique, c'est un problème un peu insoluble, parce que bien sûr, tout le monde met en avant ce principe d'exemplarité. Évidemment, je ne vais pas non plus vous dire le contraire en disant qu'il ne faut pas qu'un responsable politique soit exemplaire. Mais malgré tout, je veux quand même dire quelque chose qui ne sera peut-être pas compris.
Allez-y,
mais
allez-y.
C'est que, voilà, un responsable politique, on attend de lui des décisions qui soient justes, en tout cas qui soient cohérentes par rapport à un projet politique. Si il incarne et il vit lui-même ça, tant mieux. Mais ce n'est pas ce que j'attends de lui, premièrement. On va prendre un autre exemple. Dans l'affaire Cahuzac, le comportement personnel de Jérôme Cahuzac était insupportable et intolérable. Mais je pense qu'une politique de rigueur fiscale et budgétaire mise en place par le gouvernement valait ou ne valait pas, indépendamment du comportement personnel du ministre du budget. Et c'est vrai, je pense, dans tous les secteurs. Alors c'est vrai que c'est difficile à entendre parce qu'on dit il ne le fait pas lui-même, pourquoi il l'imposerait aux autres. Mais voilà, genre...
Françoise Fressoz, un mot ?
Moi, je pense que ce qui lui arrive là est peut-être l'occasion pour lui de réorienter sa campagne ou en tout cas de changer la tonalité de sa campagne. Parce que c'est vrai qu'il y avait une cohérence très forte entre un François Fillon qui dit « Moi, je ne serai jamais un candidat mis en examen et je suis le candidat de la probité » et le François Fillon qui se retrouve quand même aujourd'hui à devoir s'excuser devant les Français. Donc, il peut croire qu'il faut un projet de rigueur, de redressement, mais il ne peut plus tenir la campagne qu'il avait faite pendant la primaire. Et je pense qu'il doit non seulement la réorienter, mais c'est qu'il peut le faire parce que le mois de janvier n'a pas été bon pour lui, même avant l'affaire. Mmh. Il commençait à décrocher, il n'était pas compris. Donc je pense que ce qui lui arrive là peut lui permettre de changer de discours pour essayer d'avoir un peu plus, même s'il reste sur ses propositions, mais d'avoir un discours un peu plus empathique et en tout cas pas moralisateur, parce que ça ne peut plus marcher.
Brice Ceinturier, puis Julien au standard.
Oui, je voudrais revenir très rapidement sur ce que Guillaume Tabar vient de dire, c'est que oui, sur le papier ou en droit, très probablement, oui. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, non, parce que l'exemplarité et l'exemplarité de celui qui conduit les réformes est devenue la condition sine qua non de sa légitimité à porter ces réformes. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, pour les Français, toutes ces réformes depuis une trentaine d'années ne produisent pas de résultats. Elles ne fabriquent pas de l'efficacité. Elles sont perçues comme des efforts qu'on demande sans qu'il y ait le bénéfice. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette idée-là, dans ce paradigme, s'il n'y a pas l'exemplarité de celui qui demande des efforts, comme on n'est pas sûr d'avoir du résultat, du redressement national et plus d'équité, eh bien ça ne peut pas marcher.
Il est 19h41, merci d'écouter Le Téléphone Sonne sur France Inter.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Et je le disais, vous êtes très nombreux au standard de France Inter ce soir. La parole tout de suite à Julien. Bonsoir, vous nous appelez de la Creuse.
Bonsoir à tous les intervenants. Donc je vous remercie de prendre ma question. Mais donc moi j'ai suivi l'intégralité de l'intervention de François Fillon. Et bon, j'ai pas été, autant vous dire, j'ai pas été très convaincu par ses arguments. Mais bon, au-delà de ça, on peut déjà dire qu'il a été efficace, puisque je vois que par exemple, vous discutez plus de. On discute plus du fait que c'est un emploi qui est potentiellement fictif. Mais est-ce que c'est légal ? Donc déjà là, il a bien réussi. Mais pour moi, la question reste posée. Et surtout, ce que je voulais poser comme question, c'est... donc, il a donné comme justification de l'emploi de sa fille qu'elle a travaillé à de la documentation pour son livre. Mmh. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il est judicieux d'utiliser l'argent public pour la préparation d'un livre ? Est-ce que c'est pas l'éditeur ou l'auteur qui doit payer ça.
Merci Julien pour cette question. Françoise Fressoz, le sujet entier.
Oui, bien sûr. Alors, sur la qualification d'emploi fictif ou pas, il s'est quand même défendu parce qu'il a sans arrêt essayé de justifier, de dire si Pénélope Fignon, elle faisait telle tâche. Quant à mes enfants, voilà à quoi ils ont servi.
Mais là, la question de l'argent public pour financer les recherches sur un livre.
Qu'est-ce qu'il a dit ? C'était le livre que j'ai fait publier en 2007 qui m'a permis de me préparer comme Premier ministre. C'est vrai que c'était un livre de fond, mais c'est vrai que la défense est un peu spécieuse. Mais encore une fois, la difficulté, c'est que le parlementaire a le droit d'employer. Il n'y a pas de charte définie qui dit que à quoi sert l'assistant parlementaire. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Donc, Fillon, il dit, ça m'a permis d'écrire un livre où je me suis préparé à ma table.
La disparition du Premier ministre.
Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est dans ce livre-là qu'il disait, il n'y a plus besoin de Premier ministre. Mais donc, c'est un peu spécieux, mais en même temps, ça lui permet de justifier que l'emploi a servi à quelque chose.
Pour votre information, des questions comme celle de Julien sur l'emploi exact de cet argent public, il y en a 25 sous mes yeux au standard. Guillaume Tabar.
Mais là encore, je pense qu'il faut rappeler aussi la réalité de la vie politique. On dit, un député, il est là pour voter la loi, et donc le collaborateur d'un député est là pour aider au travail sur la loi. Mais on sait bien que dans la vie politique, tout le monde n'a pas le même degré d'implication dans le travail législatif. Il y a des responsables politiques de niveau national qui ambitionnent ou qui ont été ou qui seront ministres, premiers ministres, voire président de la République, et pour qui un mandat de parlementaire n'est qu'un moyen d'exister dans le débat politique.
Mais est-ce que ça c'est audible, Guillaume Tabar, aujourd'hui? Non, c'est ça la question.
Mais à ce moment-là, ne faisons un Parlement que de techniciens de la loi. Or, le Parlement, c'est aussi des responsables politiques qui s'expriment nationalement sur toutes sortes de sujets.
Mais là, la question est sur l'argent public. C'est ça ce qui revient sans cesse dans les questions des auditeurs. Brice Teinturier.
Non, mais je crois que c'est très exactement ce que la société française n'accepte plus. Cette idée qu'il y aurait finalement deux catégories de députés. Des quasi-grouillots qui seraient là pour s'occuper de la loi et d'autres qui pourraient consacrer leur temps et l'argent public à une ambition nationale. C'est la réalité, Guillaume Tabar a tout à fait raison, c'est la réalité. Mais c'est une réalité qui est perçue comme insupportable et si elle ne change pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas un encadrement plus fort à la fois par la loi et par, moi j'ai envie de dire, un peu plus de vertu des individus eux-mêmes, eh bien, à un moment donné, vous aurez une contestation beaucoup plus radicale et beaucoup plus forte. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit une radicalisation, une exaspération, parce que ces pratiques-là ne sont plus supportables.
Oui, Guillaume Tabar. Ce sont les mêmes électeurs qui choisissent d'élire François Fillon, député à Paris, qui choisissent d'élire Manuel Valls, député à Évry, en sachant pertinemment que, en lui apportant leur suffrage, il concourt à l'expression nationale de ses candidats. Et il a su, mais Jacques Chirac était réélu en Corrèze pendant des années. Voilà. Est-ce que c'était le plus actif au Parlement? On peut en douter. Et personne ne lui en voulait.
Françoise Fressoz, puis un témoignage que je vais vous lire.
Non, mais moi je suis comme Brice Teinturier, c'est que je pense que toute la défense de François Fillon, c'était dire c'était légal et il y avait du travail, et que effectivement ça choque l'opinion parce que l'opinion n'attend pas ça du parlementaire aujourd'hui et qu'il y a un besoin de changement.
Le témoignage d'Hervé, il y en a de nombreux, hein, comme ça ce soir sur France Inter. Je suis scandalisé, nous dit Hervé. J'ai donné des euros pour lui. Il se fout de moi. Il me doit de l'argent. Je ne voterai plus jamais pour eux. Le seul choix qui me reste, Mélenchon, Marine Le Pen. Qui veut réagir? Encore une fois, ce n'est pas un auditeur isolé, Brice Teinturier.
En tous les cas, celui qui fait des enquêtes d'opinion apprécie les comportements électoraux qui peuvent aller manifestement d'un vote LR ou à Mélenchon ou à Le Pen.
Ça veut bien dire quelque chose.
Mais
du,
tout à fait.
Déréglé, profondément
exactement,
déréglé. Ça
exactement.
Dysfonctionne.
Et ça montre aussi
très bien.
Et c'est
une catastrophe démocratique, on peut le dire quand même.
Et ça montre très bien qu'on a aujourd'hui des Français qui sont tellement en colère contre un certain nombre de choses, qu'ils peuvent aller trouver, sans être pour autant contradictoires, qu'ils peuvent aller trouver des réponses chez des représentants de courants politiques totalement différents. Donc la structuration politique, eh bien, n'existe évidemment plus comme elle existait, il n'y a serait-ce qu'encore 5 ans. Je ne remonte même pas il y a 30 ans. Il y a 5 ans, on avait des choses qui étaient beaucoup plus structurées.
Françoise Fressoz.
Oui, je crois que là, il y a l'effet boomerang du positionnement de François Fillon, qui vraiment, dans la campagne de la primaire de la droite, oui, sans doute pour se distinguer de Nicolas Sarkozy, a joué la carte de la probité, de Monsieur Probe, de « moi je suis irréprochable ». Et donc là, c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a une partie de l'électorat qui est très troublée et qui va lui faire payer, ça c'est sûr.
Guillaume Tabar, un mot ou sinon on repasse au standard. Denis, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de l'Oise, bienvenue.
Merci de prendre ma question. Oui, je voulais savoir auprès de qui Fillon s'excusait. Auprès de l'électorat des primaires, ou auprès des commentateurs, ou bien auprès de l'ensemble des Français, à qui il a promis du sang et des larmes.
Bonne question, Denis. Merci d'être intervenu. Françoise Fressos, Brice Ceinturier, ces excuses, elles sont auprès de qui? C'est vrai, on s'excuse auprès de quelqu'un, enfin on demande des excuses.
C'était pas auprès des médias, parce qu'au contraire, il avait organisé comme une sorte de tribunal médiatique pour donner l'impression qu'on est à charge et que lui s'adresse aux Français. Donc il s'adressait aux Français, mais plus particulièrement à l'électorat de droite qui a envie de repartir en campagne, qui a envie d'avoir un candidat. Et je pense qu'il a essayé de ressouder. C'est pour ça que son intervention, c'était pas seulement des excuses, c'était aussi une attaque assez forte politique en disant c'est un complot, ou en tout cas la justice n'aurait jamais dû agir comme ça, c'est pas clair. Donc il est reparti à l'attaque dans l'espoir de ressouder son camp et de pouvoir repartir en campagne dès demain en disant il faut un candidat de droite dans la présidentielle, et c'est ce qu'une partie de l'électorat réclame.
Petit tour de table et on redonne la parole à Denis pour la deuxième partie de sa question. Guillaume Tabar.
Alors, en rigueur de terme, dans sa conférence de presse, François Fillon a dit qu'il s'excusait auprès des Français. Donc, il a parlé de l'ensemble des Français. Bien sûr qu'il parlait plus spécifiquement aux électeurs de droite, mais ces électeurs de droite, je pense qu'ils sont partagés. Il y a en gros deux grandes sensibilités. Ceux qui ont été choqués ou déçus à cause de l'image qu'ils avaient de François Fillon. Et auprès de cela, il y avait la nécessité de cette contrition. Mais il y a aussi une partie de l'électorat de droite qui, eux, sont sur cette thèse de l'imagination politique. Et après tout, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Il peut y avoir débat sur un éventuel manquement personnel, un comportement, et en même temps constater que ça sort précisément, et ça sort pas de nulle part, en pleine campagne électorale. Donc voilà, qu'il y a une volonté politique de détruire Fillon, c'est évident, mais ce qui ne vaut pas réponse pour les faits eux-mêmes. Et ces électeurs, pour qui il y a une volonté politique de casser le candidat de droite, à cela, il a eu cette tonalité très dure à l'égard du pouvoir politique, à l'égard des juges et aussi effectivement à l'égard de la presse.
Brice Ceinturier.
Je crois que l'immense majorité des électeurs de droite a été choquée. Mais après, effectivement, il y a ces deux modes de fonctionnement qui diffèrent. Il y a une majorité d'électeurs LR-UDI qui, on le voit donc sur les questions d'image du candidat, mais qui dit bon, oui, c'est choquant, voilà, ils sont dépités. Mais en revanche, pas question de se faire voler notre victoire politique potentielle. Et puis effectivement, pas question de céder à ce qui serait perçu comme un acharnement ou un complot. Et puis il y en a d'autres qui en tirent, mais ils sont beaucoup plus minoritaires, qui en tirent des conclusions en termes électoraux. Et eux qui disent, ah non, là, pour le coup, soit je pars vers Marine Le Pen, soit je pars dans l'abstention, soit je pars vers Emmanuel Macron. Donc la majorité... Elle est choquée, mais ensuite, elle continue malgré tout à voter. Et c'est pour ça que les excuses de François Fillon, il faut se demander aussi devant qui, mais sur quoi. On s'excuse quand on a conscience, quand on reconnaît une faute. Ce n'est pas ce que dit François Fillon dans cette intervention. Il ne s'excuse pas au sens de « je reconnais que j'ai fait une faute et je m'excuse ». Il s'excuse
sur
d'avoir...
la perception qu'on en a aujourd'hui.
Voilà, exactement. C'est très différent.
D'avoir
c'est très
à différent. Comprendre que l'opinion avait bougé
exactement.
Sur ces questions.
Mais malgré tout, le simple fait de prononcer ce mot « excuse », malgré la réserve qu'on vient de pointer, c'est quelque chose d'important pour autoriser ces électeurs de droite à revoter de manière plus forte.
Donc,
et plus
pour vos missions accomplies en ce qui concerne l'électorat de droite.
Oui.
Pour l'électorat de droite. Vous pensez qu'il est remobilisé et que ça y est, on tourne la page.
Non, on ne tourne pas la page, mais je pense que pour l'électorat de droite, il enraye ce qui était une descente qui pouvait à un moment donné vraiment le mettre hors jeu, et que sa problématique, son problème est moins un problème d'opinion du côté des électeurs de droite aujourd'hui qu'un problème soit du côté de la justice, soit du côté du feuilleton au niveau médiatique.
Françoise Fressos, puis la fin de la question de Denis.
Et pour compléter ce que dit Brice, moi il me semble aussi qu'il s'est d'une certaine façon affranchi de son parti. Il était un peu ligoté, on l'a vu toute la semaine dernière, avec tous les gens qui demandaient à ce qu'il quitte. Il y avait les Sarkozy qui étaient à l'offensive, il y avait même presque ses amis, et là En faisant de ce combat au niveau des affaires, il a montré à la fois qu'il était pugnace, qu'il était là, et que maintenant c'était sa campagne, c'était plus celle de son parti, c'était sa campagne, et qu'il l'a menée. Et les autres sont obligés d'aller derrière lui, parce que sinon c'est une crise majeure, et on voit bien qu'au moins il a gagné sa semaine, c'est-à-dire qu'il pourra être en campagne cette semaine.
Denis, mille excuses de vous avoir coupé la parole, vous êtes encore là avec nous, on vous écoute.
Je vous en prie, oui. D'après les commentaires, il s'agit de savoir si finalement Fillon a convaincu et si l'électorat est choqué en partie. En fait, il n'est pas choqué. L'ensemble des Français qui vivent des difficultés durant toute l'année, je pense par exemple aux étudiants qui cherchent désespérément un stage payé 500 euros ou parfois même pas, C'est plus que être choqué, c'est vraiment une révolte qui gronde chez le peuple. Mais je pense que voilà, commentateur, c'est pas faire injure, hein, commentateur et politique sont complètement hors sol en fait. Ils sont complètement hors sol puisque les personnes qui demain vont pointer à Pôle emploi, pour d'autres, je pense aux SDF qui ont été abrités généreusement durant 2-3 jours parce qu'on est arrivé dans les grands froids et qui sont rejetés à leur sort. Non, c'est pas être choqué, c'est que le terme n'est pas adapté, c'est vraiment une révolte. Et Fillon est discrédité durablement pour l'ensemble du peuple qui souffre.
Est-ce que je peux vous demander vers quel bord politique penche votre cœur, Denis ?
Mon cœur, il a toujours été à gauche. Il a toujours été à gauche, mais c'est pas une question d'appartenance à un parti politique. C'est simplement une révolte qui est liée à une situation dont les Français sont vraiment là. Ils sont là, voilà, des manipulations que les politiques s'autorisent. Franchement, voilà, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent contrition et qu'ils réfléchissent à envisager la politique autrement pour que les Français soient quand même gouvernés par des hommes honnêtes.
Merci Denis pour cette intervention. Brice Teinturier.
Non mais vous avez tout à fait raison et on ne cesse, je crois, de dire que on est passé d'une forme de résignation qui pouvait y avoir il y a encore 5 ou 10 ans à une exaspération, une colère, que le pays gronde. Je crois que je ne cesse en tous les cas de le dire et que je ne suis pas le seul. Là, je parlais des 20% d'électeurs LR, UDI, leur comportement électoral. Et je crois même que l'immense majorité à droite partage ce sentiment d'indécence ou de faute. Simplement, ensuite, il y a d'autres éléments, et chacun fait sa hiérarchie de valeurs, il y a d'autres éléments chez eux qui rentrent en ligne de compte, et notamment ce souhait, encore une fois, un, de vouloir assurer la victoire de la droite, deux, le sentiment qu'il n'y a pas de plan B. Mais sur le plan de l'indécence ou de la colère, mille fois oui, bien sûr.
Anne-Elisabeth, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Moi, j'ai une question très simple. Pourquoi François Fillon n'a-t-il pas porté plainte contre le canard, puisqu'il a été accusé d'emploi fictif et qu'il refuse cette accusation ?
Merci Anne-Elisabeth pour cette question qui nous ramène encore à la base factuelle de toute cette affaire. Si c'est faux, si le canard a menti, pourquoi ne pas demander réparation devant la justice ? Françoise Fressos, Guillaume Tabar, Brice Teinturier.
Eh bien, je ne saurais pas Françoise. Vous répondre, donc je passe la parole parce que je ne sais pas en fait.
Guillaume Tabar,
écoutez, François Fillon a dit, et ça il l'avait dit dès son premier 20h sur TF1, qu'il attaquerait tous ceux qui l'accuseraient d'emploi fictif. Bon, j'ai pas en tête chaque phrase de papier du canard, mais on sait que le canard qui est habitué à sortir ce genre d'affaires est habitué aussi à travailler avec des avocats, etc. Et je pense que dans leur formulation, en même temps, il y a les faits qui sont sortis, et en même temps, je pense qu'il y a toutes les précautions qui, je l'imagine, hein, je parle de mémoire, qui doivent rendre l'article en question inattaquable par rapport à selon ce type de critères. Donc, François Fillon a répondu aujourd'hui politiquement. Il a même rappelé.
Mais on voit
que
la question des faits au standard, c'est incroyable. Un emploi fictif, est-ce normal ou pas ?
Que le canard enchaîné l'avait allumé sur l'appartement de fonction du Premier ministre à Matignon et que René Dozière, député socialiste, qui suit un petit peu aussi la question de.
Il est venu en grand appareil dire que c'était normal.
Et ça, c'est aussi un des problèmes, c'est que souvent, on verra avec cette affaire, mais que une affaire, elle choque lorsqu'elle sort et lorsqu'elle est révélée. Et après, alors ça peut conduire à la condamnation d'un élu, ça peut au contraire conduire à son blanchiment, et qu'on sait toujours bien, ça c'est malheureusement le cas, qu'un élu qui est blanchi n'efface jamais le tort qui a été commis.
Emmanuel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
On vous écoute, Emmanuel, allez-y.
Alors, j'avais juste une... Il y a une info là qui vient de tomber via Désintox, Libération et Arte, concernant cette journaliste galloise qui avait interviewé Pénélope Fillon en 2007 sur et qui mettait en avant le travail de Pénélope auprès de son mari et qu'a dénoncé François Fillon aujourd'hui dans son discours. Donc Libération a appelé cette journaliste qui n'est absolument pas choquée ce que met en avant François Fillon par l'enquête d'envoyé spécial, et au contraire elle dément cette information et elle dit qu'elle n'a pas été absolument choquée et qu'elle met en avant le travail d'envoyé spécial, et ils ont fait leur travail. Voilà. Effectivement, elle a envoyé un mail apparemment à Pénélope Fillon pour s'excuser de
des conséquences. Effectivement, des conséquences de cet entretien. Alain Passerelle en parlait également dans le journal de 19h. Merci.
Il y a deux exégèses différentes d'un même mail, quoi.
Voilà, c'est ça. Brice Teinturier, un mot sur l'ensemble de cette affaire. Françoise Fressos disait que François Fillon a assez d'oxygène pour au moins passer la semaine et pouvoir recommencer à faire campagne. Vous pensez qu'il est sorti désormais de l'impasse?
Moi, je crois en tous les cas qu'il a gagné non seulement la semaine que pointe Françoise Fressos, mais un peu plus que cela. Je suis depuis le début, je regarde ce qu'on mesure, je suis le début assez impressionné, intéressé par le contraste qu'il y a entre l'affaiblissement en termes d'image et le socle électoral qui tient. Mmh. Donc je pense que oui, son intervention de cet après-midi va l'aider. En revanche, et ça a été évoqué durant le débat, je pense que sa capacité ensuite à porter les réformes et à demander un certain nombre d'efforts aux Français est lourdement handicapé par cette affaire.
Guillaume Tabar, un mot
oui, c'est vrai
de conclusion.
Dans les quelques sondages, notamment les fameux Rolling qui sont faits en ce moment, on voit bien sûr que François Fillon est bas, même très bas pour un candidat de droite, mais il ne s'est pas effondré. La vraie chute de François Fillon dans les sondages, elle est liée au gros couac sur la sécurité sociale après sa désignation, plus que à la suite de cette affaire. Bon, il est quand même très bas. S'il tient à ce seuil, ensuite, pour l'instant, on a un Macron qui est en super forme, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et il se peut très bien que pour cette présidentielle de 2017, comme pour celle de 2002, la qualification au second tour, en l'occurrence face à Marine Le Pen, se joue à un niveau très bas. Et que voilà, bon, c'est pas gagné, loin de là, ça n'est pas perdu, loin de là non plus.
Merci à tous les trois et merci infiniment à tous les auditeurs de France Inter qui étaient présents encore ce soir dans le téléphone sonne. Le journal à suivre.